Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone.
Merci d'être là ce soir, d'avoir pris le temps avec ton nouveau décor qu'on voit en partie. Hein. Si vous voulez voir la totalité du décor, c'est sur les futurs lives, parce que pour l'instant, pas encore. La connexion est en route.
C'est ça.
La connexion est en chemin. Free, tu es attendu. et j'espère que le chat va bien.
Parce que donc, pour préciser, donc, Joy Tsuna, tu es à la fois monteuse et monteuse des faux raccords, c'est quand même principalement pour ça qu'on t'invite, mais tu es également streameuse. Est-ce que tu as d'autres casquettes qui nous échappent?
Sur YouTube, j'ai commencé à lancer mes émissions. Là, c'est compliqué parce que j'ai eu déménagement, boulot, etc. Donc, difficile de tout faire en solo pour l'instant, donc c'est difficile. Mais voilà, sur YouTube, je me lance un peu, je vais continuer. TikTok aussi, je fais plein de trucs. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais.
Créatrice de contenu.
Passé. Là, je vais faire autre chose. C'est ça. Donc voilà, et puis en espérant avoir d'autres casquettes après, mais pour l'instant, voilà, ça serait
ça. Ça fait déjà beaucoup pour une seule personne. C'est déjà beaucoup de contenu, parce qu'il y a des choses qui sont dans tout ce qu'on a listé qui sont pro, des choses qui sont pour l'instant, quand je dis amateur, qui pour l'instant ne te génèrent pas de sous, mais qui sont aussi. Je l'espère pour toi, amener à se professionnaliser à 100%, parce que pour l'instant, ce qui te permet de vivre, on va dire, c'est le montage et écriture, parce que les faux raccords, tu je sais pas si tu écris toujours, mais en tout cas, tu l'as fait à une...
Alors du coup, non, j'écris plus depuis un an. J'ai passé le relais justement à l'auteur original. Donc voilà, c'est celui qui a créé l'émission. Donc il a repris le flambeau parce que je voulais me concentrer aussi sur mes projets, faire un peu autre chose, sortir un peu de mes zones de confort. Donc il était temps que je me passe un peu.
Peut-être, on revient à la base, mais pour les gens qui, comme moi au départ, ne connaissent pas les faux raccords, de quoi il est question et qu'est-ce que c'est que ces vidéos, ces émissions?
Alors, Faux Raccords, c'est une émission qui est animée par deux présentateurs qui s'appellent Michel et Michel, un peu sur le thème des présentateurs sportifs, donc qui sont un peu dynamiques, qui se font des vannes, etc. Il y a toute une trame avec eux, d'ailleurs, depuis les débuts. Et en même temps, ces deux-là, donc il y a le spécialiste et il y a celui qui est un peu plus journaliste halluciné, un peu plus sérieux. Et ces deux-là, en fait, présentent des faux raccords dans les films. Donc, les faux raccords, ça consiste à, par exemple, une caméra dans le champ... un figurant qui passe deux fois et tout ce genre de petits accros ou de petits...
Des accessoires qui disparaissent.
Voilà, c'est ça, un chapeau qui va changer de couleur, etc. Voilà, ça présente ça avec un humour un peu décalé, un peu noir, voilà.
Faut dire que l'autre, toi, tu ne connaissais pas. Moi, je connaissais depuis quelques années. Du coup, ça fait un petit contraste.
Ça fait, cool. Ce que je comprends, c'est que ça fait 10 ans que ça existe.
Ça fait 10 ans, ouais. On continue.
Et que c'est diffusé. Alors du coup... Moi, je les ai regardés sur le YouTube d'Allociné, mais j'imagine que c'est sur leur site également.
Ouais, ça a commencé sur leur site avec d'autres émissions à l'époque qui avaient été créées aussi, dont Merci qui était avant Faux Raccords. Ensuite, il y a Aviez-vous remarqué qui a suivi. Donc voilà, c'était des petites pastilles comme ça sur le lecteur vidéo d'Allociné. Et après, ils ont commencé à se transférer vers les réseaux sociaux. Là, ça fait à peu près... je dirais 2 ans qu'on est très actif sur YouTube. Et là, ça fait vraiment 1 an qu'on est actif sur les autres réseaux aussi. Donc voilà, ça commence à s'étendre un peu
et
partout.
Toi, tu as rejoint quand, du coup?
Moi, j'ai rejoint il y a 7 ans.
Donc 3 ans après le départ.
Quand même.
C'est ça, ouais.
Et du coup, comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous dire la rencontre, justement? C'est que tu t'es mise à travailler, du coup alors peut-être préciser, est-ce que tu n'es pas salarié de Allociné / Webedia, tu indépendante, du coup comment ça s'est fait cette rencontre et ce boulot?
Alors du coup, moi, en fait, je sortais de l'école, donc de BTS audiovisuel. J'étais en alternance, donc j'avais appris beaucoup de choses en entreprise, etc. Donc je savais plus ou moins gérer un format. J'avais pas du tout de notion d'écriture. J'avais jamais fait ça. Après, j'ai toujours été assez à l'aise avec les mots, etc. Mais bon, c'était pas ma vocation première. Il faut savoir que Fort Accord et toutes les émissions que j'ai citées avant ont été créées par mes frères. Donc quand je parlais de mafia chez Allociné, c'est un peu ça. Au départ, en fait, ça a été créé par mes frères. Donc Merci Qui, Fort Accord, Avez-vous remarqué, etc. Ça a été créé par mes frères. Et du coup, en fait, c'était eux qui écrivaient et montaient. Parce que j'ai un frère qui est réalisateur et monteur comme moi. J'en ai un autre qui est auteur-producteur. Et le dernier, c'est un des Michel. Voilà. Donc
Ah
voilà, donc
d'accord.
c'est vraiment la mafia. Cette émission, on est toute la famille, au moins, a mis un peu sa patte dessus, quoi. Du coup, ils ont fait le test avec moi, comme n'importe quel autre monteur. Il y avait deux autres monteurs qui étaient aussi dans l'équipe Allociné à ce moment-là, qui pouvaient reprendre le flambeau, mais ça matchait pas trop. Et du coup, ça a bien matché avec moi. Au niveau de la logique du montage, etc. Donc, on avait un peu la même façon de penser avec mon frère, donc forcément. Donc, ça a bien matché. Et du coup, j'ai fait quelques tests sur des émissions au début. Je crois que la toute première que j'ai fait, c'était le Fort Accord Une Nuit en Enfer. Et ça a été une galère. Et du coup, voilà, on a testé un peu le montage, ça s'est bien passé. Et ensuite, j'ai continué. Et eux, en fait, avaient décidé en fait, de quitter Allociné. À deux pour créer leur boîte de production à côté. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour les remplacer sur l'émission. Donc voilà, et puis j'ai passé un an à faire le montage et après j'ai commencé à reprendre l'écriture. Donc assez compliqué parce que c'était pas du tout mon truc, mais l'humour de l'émission
Bah,
étant
à force de le
familiale et
monter, tu
voilà,
savais,
on
tu
y avait
savais déjà où tu
l'habitude
mettais
quand
les
même.
pieds, tu connaissais
C'est
déjà.
ça. Voilà. Et donc voilà les grandes lignes en fait comment j'ai rejoint Fort Accord mais voilà bon c'est sûr que ça aide d'avoir ces frères qui font ça après ils m'ont pas non plus
Bah, en
traité
fait, ça t'a ouvert une possibilité et tu l'as
voilà
saisi. C'est
bien
plus
sûr
ça.
bien
Hein.
sûr
Parce qu'on parle
oui c'est
souvent
ça
piston ou autre, mais il y en a plein. Si la personne convient pas, c'est juste, bah, on ouvre les portes, c'est plus simple, mais faut rester.
bah c'est
Et
ça
convient au
après si
public.
ça fonctionne pas hein,
Parce que
c'est clair
le vrai patron, c'est le public.
c'est clair
Quand tu fais du contenu, si tu conviens pas, bah, au bout d'un moment. On a vu des
Ouais,
réalisateurs de films où
exactement.
c'était de la merde, le public l'a dit, mais il reste. Mais bon, ça c'est autre chose.
Malheureusement, des fois, ouais.
Mais c'était déjà,
Non, non,
moi,
c'est vrai que...
ce que je me disais, c'était déjà un contenu qui. Parce qu'on se souvient des contenus de l'époque, YouTube, Dailymotion ou autre, hein, ou directement sur les sites, où c'est des choses à rallonge, où on est arrivé quelques années plus tard à vouloir faire du cut, du rapide, parce que les gens n'ont plus le temps. Et c'était
Ouais.
déjà, je trouve, un contenu qui était visionnaire, parce qu'à une époque où tout le monde faisait des vidéos un peu longues et pas très cutées, pas très dynamiques, parce que les gens prenaient le temps de simplement. Très en avance, ça a été assez. La petite vidéo que tu regardes, justement,
Ouais.
entre, je sais pas, t'as une petite pause au boulot, enfin voilà, tu peux la regarder. Et c'est quelque chose qui est maintenant est très courant dans les vidéos sur Internet, justement, ce format très, très
Exactement.
dynamique. Mais eux, c'était. Enfin, et toi, c'était depuis un moment, d'ailleurs, ce format un peu punchy.
Moi, j'ai grandi avec leurs vidéos parce que c'est vrai qu'avant, il y avait Merci Qui. Justement, mon frère qui est scénariste jouait le coach et c'était avec Grégoire en fait qui était je crois co-PDG d'Hallociné à ce moment-là et du coup en fait il parlait d'anecdotes de films et ça marchait super bien et moi j'ai grandi avec ça en fait déjà en exemple quoi donc c'est vrai que l'humour familial était déjà présent dans cette émission-là. Et du coup, Fort Accord, moi derrière, j'ai aussi vu comment l'émission a été créée, les tout premiers. Ça a toujours été un peu ancré, moi, dans mon quotidien, quoi, d'avoir ces références-là,
Parce que
quoi.
dans les études, t'es parti dans l'audiovisuel parce que familialement, c'était le cas, quoi. T'étais baigné
Bah,
dedans.
c'est ça, on a toujours été baigné dans l'artistique. On a fait beaucoup de théâtre. Ma mère avait une association de théâtre où elle gérait un groupe enfant et un groupe adulte. Et en fait, bah moi j'étais dans le groupe enfant, donc on apprenait l'impro, on apprenait plein de choses, la diction, et on s'éclatait en fait. Et du coup, bah on a déjà appris à être sur scène, très tôt, apprendre des textes, être assez à l'aise avec ça. Et puis, il y avait aussi tout l'humour de l'époque, parce qu'on rejouait un peu les sketchs des inconnus, etc. Donc, on a grandi avec tout ça. Et tout le côté audiovisuel aussi. Ça, tous mes frères, ils sont dedans, et moi aussi, quoi. Donc, mais ça va, on a trouvé notre vocation tous, et ça tombe bien, c'est la même. Donc, on a toujours l'occasion aussi de travailler ensemble, donc c'est cool, quoi.
Des projets, du coup, qui peuvent se mêler, justement, bah, toi, ça a été le cas, et après, bah, l'avenir... on parlera tout à l'heure, justement, des futurs projets via YouTube ou autre, Twitch, hein, faudra pas hésiter, hein, ce sera le moment pub.
sera... Oui, une question que je me pose, d'ailleurs, sur le temps que te prend un faux raccord. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un... Moi, je ne suis pas un spécialiste. Il y en a un toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe, les faux raccords?
Toutes les semaines. Et du coup, là, ça va être le dernier cette saison, mais...
Je suppose que la réponse ne sera pas la même quand tu écrivais et maintenant que tu n'écris plus. Mais combien ça te prend, un faux raccord, un seul?
Avec l'écriture, il faut rajouter une journée, on va dire. Donc, voilà.
Oui, mais, comment, sinon, ça se passe
pour le montage,
comment ça se passe, justement?
Comment ça se passe?
Le point de départ, et quand c'est publié.
Hein. Alors, du coup, celui qui joue le Michel Sérieux, on va dire. Okay, c'est mon frère. C'est lui il est rédacteur en chef d'Allociné. Et du coup, il s'occupe de tous les dérushs. Donc, c'est lui qui trouve toutes les gaffes. Et du coup, ça fait des fois, il y a 40 gaffes par film, et moi, je reçois le fichier.
Ça, c'est énorme. Tu es en train de dire que le mec qui joue pas le spécialiste,
ouais,
c'est lui, en fait, qui trouve les faux raccords que le spécialiste fait passer pour ses propres trouvailles.
Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait en sorte que ce soit dit. Hein. Non mais c'est bien,
c'est bien. Non mais c'est des petits, bah oui,
les tips.
On sait bien que de toute façon, voilà, c'est ça, c'est des rôles aussi qui jouent Michel et Michel. Hein. Il n'est pas aussi déglingué que dans l'émission, et il vit pas dans un village de tarés. c'est pas vraiment la vraie vie, quoi.
Ça aurait pu être le cas, hein. Tout existe sur cette terre.
C'est ça, c'est ça, mais on s'éclate bien en tout cas à raconter ces histoires-là. Quoi.
Reprenons le fil de...
Ouais, et du coup, donc, je reçois ce fichier de 40 gaffes, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Donc ça fait beaucoup quand même sur un film, donc il faut trier, parce que sinon l'émission durerait 1h30. Donc moi, mon rôle, c'est de sélectionner les meilleurs. Après, tout est relatif, hein. Moi, c'est les meilleurs. J'essaie de me mettre du point de vue des spectateurs, ce qu'ils ont envie de voir, de prendre une émission où il va y avoir des gaffes variées. On ne va pas toujours voir un technicien. J'essaie de prendre le meilleur technicien, le meilleur figurant, et puis de faire une émission où, voilà, c'est jamais la même chose qu'on voit. Ensuite, moi, j'envoie des rushs avec les extraits que je récupère dans le film ou la série, du coup, à l'auteur. Et lui, il va écrire le texte, donc les dialogues entre Michel et Michel. À partir de là, il m'envoie le document. Je lui fais quelques commentaires, parce que par rapport au montage, il faut que l'écriture soit pensée avec le montage, parce que sinon, moi, je me retrouve... à avoir des problèmes avec des blancs trop longs ou justement un truc qui va trop vite et les gens n'ont pas le temps de voir la gaffe. Donc il faut penser ça à l'écriture et c'est hyper important. Donc on fait souvent un retour avec l'auteur pour se mettre d'accord, etc. sur certains trucs. Et finalement, il lui envoie, il fait les modifs, il envoie aux deux Michel qui enregistrent. Et à partir de là, moi, je reçois la voix off. Donc je fais le montage voix et après, je fais le montage image par-dessus la voix. Et voilà.
Et est-ce que
et après, j'envoie et puis...
Tu peux nous dire, donc, est-ce qu'ils enregistrent en même temps la voix? Est-ce que c'est un ping-pong au moment de l'enregistrement ou c'est on casse tout et c'est chacun fait ça à part? Casse des mythes?
Alors,
ou pas
Non, je vais pas, pas casser de mythes parce que là, c'est par la force des choses, en fait,
oui,
qu'ils se sont retrouvés à plus enregistrer ensemble. Avant, ils enregistraient ensemble. D'ailleurs, c'était bien plus drôle pour moi parce que c'est vrai qu'à deux, ils réagissent beaucoup mieux au texte. Et du coup, ils se marrent à deux, et ça fait plaisir aussi quand on écrit d'avoir une réaction quand même, quand on reçoit le truc.
Plus spontané, quoi.
Parce que ça les a fait marrer, voilà, c'est ça. Mais là, du coup, avec le Covid, ils ont été obligés de splitter, donc il y a eu une période où ils enregistraient chez eux via téléphone, donc le mix son était terrible. Je recevais des trucs qui étaient vraiment pas fous au niveau
Le mix son, c'est toi qui fais vraiment le mixage
Ouais.
Ok, vraiment.
Ouais, c'est moi. Après, j'ai pas des grosses notions là-dessus, mais ça suffit pour la qualité. Ils m'envoient quand même des trucs déjà très qualitatifs. Donc, voilà, du coup, il y a une période où ils enregistraient chez eux, chacun chez soi. Il y a une période où ils sont revenus, du coup, dans les locaux Allociné. Donc, ils enregistrent toujours maintenant, aujourd'hui, là, chacun de leur côté. Donc, c'est un peu différent encore.
C'est une autre façon. c'est notre façon de faire. Et quand du coup c'était à toi d'écrire, bah, ça faisait un interlocuteur de moins et ça, peut-être que ça allait plus vite du coup, parce que quand tu montes et quand t'écris, t'as vu justement la différence entre écrire, monter ou juste monter. Tu montais, l'écriture allait plus vite ou le montage se ressentait mieux quand tu fais les deux, comment tu différencies un petit peu?
Alors,
tu
ne
nous as pas dit d'ailleurs exactement combien de temps finalement en tout?
Oui, du coup, en tout, on va dire une journée à monter en entier. Après, comme je disais, on s'est un peu étendu sur les réseaux sociaux, donc maintenant je fais aussi des versions carrées et verticales.
Ouais.
Donc ça prend un peu plus de temps, donc ça, repasser toutes les versions pour les réseaux sociaux, ça me reprend une journée derrière, parce qu'il faut que je mette des sous-titres, il faut que je recadre l'image qui est en 16:9, il y a des gaffes qui ne vont pas marcher, parce qu'il faut les montrer en 16:9, et que là on est réduit, on est en carré, donc forcément s'il se passe un truc à gauche ou à droite de l'écran, ou en même temps les deux, là je ne peux pas le montrer, quoi. Donc il faut faire des choix. Donc on fait une version courte aussi maintenant au niveau de l'écriture, donc ça s'est vachement étoffé au niveau du format, où avant on était juste limité à un 16:9 basique et on envoyait ça, c'était pour YouTube, c'était pour le site. Maintenant il y a tous les réseaux, quoi, donc il faut s'adapter aussi. Donc ça prend un peu plus de temps, mais l'émission en elle-même c'est une journée pour moi.
D'accord.
Voilà.
Et du coup la différence au niveau boulot, quand tu fais l'écriture, le montage ou que le montage, comment tu ressens?
Comme l'écriture c'était une journée, j'imagine que quand tu fais les deux c'est deux jours et quand tu fais que le montage c'est un jour.
C'est ça.
Après moi c'était pas en temps, ma question c'était comment tu justement monter quand tu écris, c'est tu montes pas de la même manière que quand tu ne fais que monter.
Non c'est clair, ça c'est clair. Quand j'écrivais, bah c'était déjà beaucoup plus simple quand j'avais commencé à choper le truc, de penser le montage, donc je savais exactement moi comment j'allais montrer la gaffe, donc je savais exactement ce qu'il allait dire, à quel moment il allait faire une pause pour laisser les gens voir. C'est plus facile parce que moi j'ai déjà le montage dans ma tête, je sais déjà comment, j'ai juste à combler en fait l'image qui se déroule en écrivant, quoi, donc c'est plus simple, c'est clair.
T'écrivais un peu en même temps que tu montais ou tu faisais un premier montage et t'écrivais après ou tu chevauchais un petit peu
Non, en fait, simplement, je regardais les gaffes, les fichiers, tu vois. Tiens, machin, il passe, ça prend tant de temps. À tel moment, on va voir un technicien. Est-ce que je mets pause? Est-ce que je fais un ralenti? Déjà, je le pense, tu vois. Est-ce que c'est plus facile pour les gens de le voir en accéléré? Est-ce qu'on repasse deux fois la gaffe pour que les gens voient bien? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à penser comme ça. Et du coup, bah, en fait, non, parce que le montage ne peut arriver qu'une fois que j'ai la voix, moi. Donc, l'écriture, en fait, se faisait sur une sorte de montage virtuel dans ma tête, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'était vraiment pensé au moment où je regardais les gaffes, je me disais, bon, bah, voilà, ok, je vais la montrer comme ça, donc je vais écrire comme ça, quoi. Mais l'écriture, vers la fin, ça devenait un peu une souffrance, parce que j'arrivais plus à trouver d'idées. Ouais, j'étais un peu.
Renouvelée. Hein.
Je connaissais pas vraiment ce syndrome de la page blanche, et en fait, je l'ai vécu. Et c'est assez terrifiant parce que tu sais vraiment plus quoi faire et t'as une boule au ventre quand t'écris parce que t'as plus d'idées en fait et t'as envie de faire quelque chose de bien, mais t'y arrives plus. Et je me suis dit, il est peut-être temps pour moi de faire d'autres choses et je reviendrai peut-être à l'écriture. Je sais pas si l'émission perdurera encore 10 ans, mais peut-être je reviendrai à l'écriture, peut-être pas, mais pour l'instant ça me fait du bien.
Ça permet d'avoir les idées fraîches, parce que c'est vrai que c'est cette idée de pas se répéter. C'est souvent quand j'écoutais des interviews de notamment de joueurs du grenier, quand ils parlaient de l'écriture ou autre, de ne pas se répéter, eux, ils étaient beaucoup, quand tu es beaucoup à écrire, c'est une facilité, une grande facilité, parce que tu as quelqu'un, c'est un recul là-dessus. Quand tu es tout seul à écrire, c'est avoir du recul et te dire, ah mince, ça déjà, l'émission d'avant, on a fait la même vanne. Est-ce que c'était il y a 10 émissions, est-ce que je peux me permettre de. Et que tu te mets à réfléchir sur tout, et du coup, à la fois, tu perds du temps et tu deviens folle.
C'est ça, en fait. C'est ça.
Donc,
c'est vrai que. Joanie, il demandait pourquoi Michel.
Oui. Alors, oui, je te propose qu'on.
Je sais, j'ai pas créé une question. Je sais juste que c'est parti d'un délire entre eux sur vouloir avoir deux présentateurs comme les présentateurs sportifs de l'époque qui sont à fond dans leur truc et limite qui vont se taper dessus parce qu'ils ne sont pas pour la même équipe, etc. Et du coup, Michel, c'était un bon prénom de présentateur.
C'est vrai.
Alors, les deux s'appellent pareil, quoi. Donc voilà, c'est parti de là.
Oui, on a un chat, donc on est là en direct sur Twitch et vous nous voyez en podcast, en diffusion. On peut prendre les questions, si vous avez des questions dans le chat, on va les insérer dans notre...
Si vous écoutez le podcast sur Spotify, Deezer et que vous écrivez dans les commentaires, il y aura un petit problème pour les questions par contre, juste ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème les amis, ça permet de remplacer. On refait une V2 avec les questions qu'il y a eu, on fait une FAQ.
Si on revient sur le blocage d'écriture, je pense qu'en fait, le fait d'avoir duré 10 ans déjà, c'est déjà un gros problème parce qu'il faut non seulement trouver l'écriture des dialogues, effectivement, ça peut être un souci, mais les films aussi. Est-ce que c'est vraiment infini de trouver des faux raccords intéressants? 10 ans, c'est long. Un par semaine pendant 10 ans, c'est énorme.
Non, c'est alors le rythme a changé. À un moment donné, c'était un mensuel. Après, c'était toutes les deux semaines, et on est repassé sur un format un peu plus court toutes les semaines, du coup. Donc, il y a moins de gaffes par film, mais ça va être toutes les semaines. Mais oui, je suis d'accord là-dessus. C'est difficile de se renouveler. En fait, l'essor des réseaux sociaux, notamment TikTok et tout, qui ont relancé aussi vachement faux raccords, parce que c'était inconnu pour quand même. Pas mal de générations en fait. Il y en a qui n'ont pas grandi avec Allociné, avec justement l'émergence du site aussi, et qui n'ont pas connu Michel et Michel, qui n'ont même pas connu Merci Qui, etc. Et du coup, c'est les retrouver sur TikTok complètement, par exemple, sortis de leur contexte d'Allociné, ben en fait, ils vont accrocher comme un truc qu'ils connaissent pas du tout, donc qui est nouveau, alors qu'on a 10 ans, quoi. C'est ça qui est fou.
Ouais, c'est ça, ça raccroche. Ouais.
Bah, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux, quoi, qu'on peut continuer. Vraiment, je pense que s'il y avait eu que YouTube, il y aurait un moment où il aurait fallu s'arrêter.
Question complètement naïve, mais est-ce que sur les films récents, les films qui se font aujourd'hui, à l'instant où on parle, il y a autant de faux raccords et de sujets, de matière dans un film
qu'à l'époque.
Des très très grosses productions hollywoodiennes faites avec des CGI de partout où tout est informatisé et réfléchi à mort. Est-ce qu'il y a autant de faux raccords là-dedans que dans un film des années 60
Bah non, forcément, ça va être souvent les mêmes, en fait. Parce que bah, si un technicien dans le champ, il va être gommé maintenant, avec les technologies actuelles. Donc c'est compliqué. Non, ça va être souvent les mêmes choses. Des fois, il y a des problèmes, justement, dans la CGI, et là, c'est marrant. Des fois, il y a des... Juste des clins d'œil comme ça qu'on va mettre. Je donne l'exemple dans Walking Dead, par exemple, le tigre qui est joué par un mec qui porte un lycra vert. C'est super drôle et du coup, ça, on ne peut pas le montrer, mais on le met quand même pour dire regardez comment c'est fait. Et ça, c'est les coulisses aussi parce que c'est ce qu'on montre en fait. Le but n'a jamais été de descendre les films, c'est plus de montrer comment c'est fait. Mais ouais, du coup, c'est sûr que moi, je m'éclate plus quand c'est des vieux films parce qu'il va y avoir. Il va y avoir des trucs complètement fous.
C'était plus permissif à l'époque. On disait oh bah, ça passe. Oh. Maintenant le moindre truc. Bidouille
des trucs des fois c'est ouais.
en vrai ça passait mieux parce que bon et tu le voyais au cinéma tu faisais pas trop attention et après tu l'avais pas en cassette ou quoi et même si tu l'avais en cassette en fait c'est une qualité.
On va dire que c'est le streaming vraiment le fait
de. Il y a rien dedans du coup.
Oui c'est ça. Du coup, comme on peut les récupérer en HD aujourd'hui, en plus, les vieux films, bah, du coup, c'est évident quand on les voit vraiment, parce qu'ils ne vont pas corriger tous les trucs. Mais à l'époque, le
reflet du caméraman dans la troisième voiture au fond, mais personne ne voyait ça, c'est évident. Personne ne voyait, c'est sûr.
Ce qui est marrant...
Et puis en plus,
Vas-y,
je t'en prie, non.
On se met la... Non, mais c'est...
Oh là là.
C'est pas toi qui fais ce boulot-là, mais moi, je me suis toujours dit, mais le boulot de... C'est-à-dire qu'il faut regarder, je ne sais pas s'il le fait vraiment, regarder le film image par image ou il le regarde plusieurs fois à vitesse normale. Je ne sais pas comment il bosse au moment de la première découpe.
D'ailleurs,
c'est un secret professionnel.
Est-ce que toi, donc, qui es monteuse professionnelle, est-ce que tu as monté déjà des longs métrages?
Non.
Et est-ce que tu penses que c'est un tout autre métier complètement différent ou est-ce que...
Déjà, les portes du cinéma sont très très fermées. Il faut toujours connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors déjà, pour y rentrer, c'est compliqué. Au-delà de ça, moi, j'ai toujours été plus intéressée par des formats courts. Je suis passionnée des courts-métrages, par exemple, j'adore ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et souvent plus concis. Et du coup, il y a plus d'obligation pour les gens. Du coup, ils sont obligés de raconter ça bien. Enfin, du coup, j'ai toujours été intéressée par les formats courts. Donc, le long métrage, ça m'intéresse pas trop. Après, oui, c'est complètement différent parce que déjà, c'est il y a des équipes énormes sur les longs métrages. Donc, tu es toujours réduit plus ou moins à un rôle assez basique, mais il y a toujours mais quelqu'un qui va
compris
faire...
Y compris sur le montage.
Bah, la post-prod, ouais, il y a toujours tel mec qui va s'occuper de l'animation de telle scène, mais l'autre scène, ça va être tel autre mec. Ça va toujours être assez limité sur
montage,
les grosses
ouais.
équipes comme ça. Bah ouais, c'est ça.
Il n'y a pas un gars.
Du coup, c'est ça, c'est des gens très spécialisés dans ce qu'ils font et qui au final ne font que ça, quoi. Et ils sont doués là-dedans, mais je trouve que c'est un peu limité. Après, ça doit être une expérience qui est quand même folle. Mais ça m'a jamais trop intéressé. Mais je pense que ouais, c'est.
Et est-ce que tu as fait d'autres choses en montage justement? Là, on parle de faux raccords, on en parle beaucoup parce que c'est en tout cas le plus connu. Mais est-ce que voilà, professionnellement, ou bon, on va dire le terme où tu as facturé, disons-le, est-ce que où tu as bossé d'autres choses qu'on peut retrouver des montages d'autres projets que tu as fait?
Oui, bah, j'ai fait plein de trucs en fait.
Bah, dis-nous, vas-y.
Vas-y, attends, c'est pas forcément trouvable, mais en tout cas, oui, j'ai bossé sur autant des bandes démos pour des comédiens que du film institutionnel pour le Palais des Congrès à Paris. Autant j'ai monté un documentaire pour une chaîne japonaise sur Chantilly. J'ai fait plein de trucs. Et du coup, sinon qu'on peut trouver là plus récemment, j'ai plus envie de m'orienter vers ma passion jeux vidéo, etc. Donc j'ai plutôt contacté voilà, les personnes à qui j'avais envie de travailler. Donc plus récemment, j'avais fait quelques vidéos YouTube pour Max Tildan sur des jeux de société, donc qui sont retrouvables sur ses chaînes directement, et le trailer de voyage autour du monde de Trinity. Du coup, elle était venue chez moi. On avait tourné toute une journée. Donc c'était un de mes premiers boulots de réalisation. Donc voilà.
J'ai le lien que tu m'avais donné. Tu permets que je le donne dans le chat, celui où ça référence ton book, appelons-le comme ça, si vous voulez aller voir.
Voilà, en fait, j'ai l'impression que ça peut tout à fait être un nouveau marché qui va beaucoup évoluer ces prochaines années, parce qu'on a vraiment l'impression que tous les gros streamers, en tout cas, et sûrement les gros youtubeurs...
Salut tout le monde, on est de retour pour...
...tout le temps leur qualité de production. Il y a par exemple tous ces events de... Je pense au JDR, par exemple, avec Film Opting, enfin tous ces gros events, enfin moyens events qui se montent et qui ont besoin évidemment d'une qualité de production. Et ça va sans doute pas s'arrêter, même ça a beaucoup simplifié sans doute.
Non, c'est clair. Bah, moi je pense que là honnêtement, si Fort Accord devait s'arrêter demain, ça serait. Je ferais ma com sur Twitter et je contacterais voilà, toutes ces personnes-là parce que ça m'intéresse d'aller travailler là-dessus. À côté, donc ouais, non, c'est enfin vraiment, si on veut se lancer aujourd'hui à Twitter, c'est le meilleur moyen en fait. Il y a tous les streamers, tous les youtubeurs qui sont dessus, c'est hyper facile de rentrer en contact avec eux. Voilà, moi j'avais le grand JD qui cherchait un monteur, il avait trouvé malheureusement, mais du coup, il m'avait répondu, il m'avait dit, oh, je suis hyper fan de Fort Accord et tout, mais c'était hyper satisfaisant de recevoir ça. Enfin, j'étais putain, merci quoi, parce que moi j'adore son travail aussi, et c'était. C'est hyper facile en fait, ils répondent et il suffit juste en fait de se lancer quoi.
Pour les créatifs, donc, ouais, on voit beaucoup, c'est surtout les graphistes qui, bah, leur boulot, ils le trouvent sur Twitter grâce à Twitch notamment pour les emotes, les overlays, etc., les miniatures YouTube, etc.
Sur Insta, ouais, c'est...
Et autres.
Oui, il y a tout un nouveau marché de ces nouveaux supports.
Ouais, ouais.
Hop. Et toi, tu es pas, du coup, tu n'es pas employé à Allociné, tu n'es pas en CDI à Allociné, tu es freelance.
Ouais, moi je suis intermittente du spectacle, exactement en fait, et bah, du coup je dois faire mes heures tous les ans, je dois faire 507 heures sur 12 mois de travail pour récupérer mon statut tous les ans, et pour l'instant ça me convient, après je vais sûrement monter ma boîte incessamment, voilà, pour recruter des créatifs, des gens comme moi qui ont envie de bosser en équipe, qui ont envie de faire des trucs, donc voilà, j'ai plus envie de trouver
différents créateurs sur des projets communs pour pouvoir monter des gros trucs quoi.
Une équipe de confiance qui peut tout faire en fait à plusieurs, donc j'aimerais vraiment faire ça et lancer des projets quoi.
Donc ça c'est les envies présentes futures, et en projet actuel ou des choses qui vont se lancer qui sont entre guillemets comme on disait au début, hein, semi-pro, et le temps que ça se lance, que ça prenne, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, qu'est-ce que tu peux nous parler, nous dévoiler.
Bah, en ce moment, c'est un petit peu au point mort.
En ce moment, dans les semaines à venir. Quoi.
En ce moment, c'est un peu au point mort, mais en fait, ça fait un an que j'attends des financements du CNC. Le seul problème, c'est que pour l'instant, bah, on ne peut pas monter... peut pas monter le dossier parce que tout a été mis en attente avec le Covid. Du coup, bah, même quand tu es créateur et que tu veux te lancer maintenant, bah, c'est pas possible parce que soit tu fais tout solo, soit tu payes pas les gens et tu trouves des personnes de confiance qui vont te suivre et potentiellement accepter de pas être payé pendant un certain temps, ce qui est compliqué et même par morale, moi j'ai du mal à le faire. Soit bah, en fait, tu attends patiemment que la crise passe. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de trucs qui sont en attente et stand-by. Quoi. J'ai des tournages, j'ai des émissions, des concepts, mais je peux rien faire pour l'instant.
Et qu'est-ce qui fait que le CNC a mis tout en arrêt alors que...
Bah, je sais pas.
On va leur demander. On verra cette vidéo. Pourquoi
je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, après, il y avait des gens qui étaient encore déjà en attente avant la crise. Du coup, leur session a été décalée. Ce qui fait que bah, celles de ceux qui veulent maintenant sont encore décalées à plus tard. Donc,
c'est la file d'attente. Voilà, peu...
Et on peut peut-être en parler deux secondes aussi du CNC, de comment ça marche. Donc, tu dis, tu proposes des projets et tu reçois un financement. Ces projets-là, est-ce qu'il y a un retour derrière? Parce que, par exemple, j'étais étonné de voir que, je crois, il y a un créatif et Nota Bene, je crois, enfin, il y a des youtubeurs qui... Et Linguistae, il me semble aussi. Enfin, il y avait quelques youtubeurs qui ont des projets CNC, estampillés CNC.
Mm-hmm. Ouais.
Comment ça fonctionne? Et ça s'adapte à tout?
En fait, Alors moi, je reçois de l'aide de mon frère qui est producteur, donc il a l'habitude de gérer tout ça parce que c'est de gros dossiers de prod qu'il faut rendre, etc. C'est quand même carré. Il donne pas de l'argent à n'importe qui. Hein. C'est vraiment... Et puis il y a un suivi derrière quand même. Il faut avoir résultat. En fait, il faut vraiment monter un dossier de prod. Et il y a tellement en fait de catégories différentes que là, je saurais même pas dire laquelle me concerne. Ça, c'est mon frère qui gère.
Et
j'essaie juste qu'il y a un énorme dossier de prod à remplir, qu'il faut quand même montrer patte blanche sur son projet, qu'il faut être sérieux, avoir quand même des exemples ou en tout cas déjà storyboard ou des trucs comme ça qui permettent déjà de montrer un avancement. Et ensuite, il y a en fait une aide aux créateurs actuellement pour le net. Donc ça va être tous réseaux sociaux confondus, je crois. Et en fait, ils étudient le dossier et bah, si on passe, on passe. Et on a en fait une somme d'argent, mais qu'il va falloir justifier en frais comme une entreprise en fait. Donc ça va être, j'ai payé mon graphiste tant de jours. Voilà,
j'ai acheté du matos.
Donc c'est tous les frais justifiables ligne à ligne.
Et c'est tout type de projet audiovisuel. Ça peut être
c'est
quelqu'un qui fait un dessin animé.
Il faut trouver sa catégorie, quoi. Parce qu'il y en a un paquet, quoi. Il faut savoir laquelle te concerne bien spécifiquement, parce que c'est une galère de trouver sur le site. Ouais. Voilà, tu me mets dessus, je sais pas. Hein. Je peux pas te dire.
C'est comme créer sa boîte. Des fois, dans l'audiovisuel, des fois, hein, tu cherches ta catégorie. Tu es là, créateur de contenu. Hein, elle n'existe pas quand tu crées ta boîte. Ça n'existe pas
les
encore.
Les catégories, ils les ont créées dans les années 70, je crois.
Ils n'ont pas bougé.
Le temps dépassé.
Ils ont perdu les accès pour changer les catégories. Et du coup, ils se sont dit, bon, on l'est.
Non, mais c'est comme Pôle emploi qui vient me proposer des métiers de monteur en chantier, quoi.
Allez, monteur. Bah, écoute,
à partir de là, je pense que.
Comment ça
y a quand même un problème, quoi.
Mais bien sûr.
Ah, oui,
je suis totalement qualifiée, quoi.
Surtout que de base, tu prends le montage vidéo, c'est aussi vieux que le monde. Techniquement, les films de l'époque, il y avait un mec qui les montait aussi. Donc en fait, c'est.
Enfin, vieux que le monde, vieux que le cinéma.
D'ailleurs, oui, si le cinéma. Une anecdote, si vous voulez une anecdote, de base, c'est un métier féminin et on dit monteuse vidéo. Parce que c'était des femmes qui découpaient les pellicules parce qu'elles avaient des mains plus délicates. Voilà. Pour la petite anecdote.
Ah bah j'avais.
Donc, oui, ça fait un moment.
Et parce que
c'est elle aussi qui peignait les pellicules pour les premiers films.
Ah ouais, la vache. C'était toute une histoire, hein, le montage à l'époque. Donc effectivement des pellicules, hein, pour les plus jeunes d'entre nous. Donc c'est des bandes de plastique, on va dire, qui étaient découpées manuellement et recollées pour que les deux scènes. Soit au bon endroit et il fallait faire toute la bande comme ça.
C'était long.
Aïe de fou furieux.
Ah merde, ah non, c'est la fin, bon, c'est bon, ça passe.
Et c'est plus la colorisation aussi que je trouve impressionnante, parce que image par image, sachant qu'il y a, à l'époque, on va dire, 15 images secondes, bon, à quelque chose près, jusqu'à 30 après, 30 images la seconde qu'il faut colorier, sachant que le film il va durer allez, 90 minutes.
Ah bah, tu
faut y aller quand même.
Tu passes un peu plus qu'une semaine, un petit peu. Juste un petit
non,
peu
mais
plus que
possible,
la...
hein.
Bah, c'est, tu vois, en fait, tu, c'est un petit peu comme si tu te dis, bon allez, je démarre le vélo, je fais le Tour de France. Bah, tu vois pas le bout, t'as à peine commencé. Donc c'est un petit peu ça, c'est, tu ne vois pas le bout.
Ouais,
un peu comme les dessins animés de l'époque, quand tu vois les mecs bosser sur calque par calque et ils dessinent.
C'était vraiment de l'artisanat, hein. Vraiment.
C'est des choses c'était fou, hein. C'était fou, vraiment. On retrouvera pas ça. Moi, les graphismes de l'époque, je les trouve incroyables.
On se fait vieux.
C'est toujours un... Il y a toujours un petit charme quand même de retourner sur les dessins animés de l'époque.
C'est ça, sur beaucoup de docus qui sortent ces derniers mois, années, sur justement les, comment Walt Disney, ouais, comment c'était fait. Et c'est toujours, je vous conseille, si vous avez rien à faire, des petits documentaires de création. Il y en a moins des films de l'époque, j'en vois moins en tout cas, de comment c'était fait. C'est toujours un peu fou. Est-ce que le chat a des questions, Team Frère Lumière ou Team Méliès? Le chat a toujours les meilleures questions.
Est-ce que ça te fait plaisir
Je peux répondre.
Vas-y.
La question, c'est est-ce que ça te fait plaisir de savoir que les vidéos que tu montes sont utilisées dans les cours d'audiovisuel de plusieurs lycées?
Mais
donc
oui,
j'imagine
c'est...
qu'on parle des faux raccords.
C'est fou. Sérieux? Genre vraiment, il y a des gens qui utilisent ça.
Chat,
attends, on me l'avait dit une fois. Je sais plus qui c'était, qui m'avait dit effectivement en cours... on a étudié un faux raccord, et moi j'étais là, attends quoi. Vous étudiez mon travail. Attends, il y a quelques temps, moi aussi j'ai étudié le travail des autres, c'est quand même, enfin, c'est dingue, je sais pas, c'est... Bah, c'est flatteur, hein, après...
T'as les profs qui sont un peu plus jeunes dans leur tête, hein. Moi, à l'époque, c'était les C'est pas sorcier en cours de SVT ou autre, qu'on regardait, ou était une fois la vie. Et ça, c'est les bons profs qui font ça. Et moi, j'ai un pote qui est prof de sciences physiques, et des fois, dans ces cas, voilà, qui est des années 90, et qui, du coup, dans un collège, il met des sujets de youtubeurs. Enfin, il essaye de dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous intéresse. Bah voilà, on mate ça, quoi. Mais toujours en lien avec son cours, quoi. Et j'ai dit, ça, c'est des génies, ça, c'est des gens intelligents. Ils utilisent ce qui est bien, plutôt que des vieux manuels, des poussières. Depuis.
Pardon.
Voilà, ton travail
moi,
est utilisé pour la jeunesse.
J'ai appris l'anglais grâce à une prof qui m'avait fait regarder Friends.
Ah, moi, c'est South Park.
Incroyable.
South Park au lycée.
Ah ouais?
Et les Simpsons aussi en anglais.
Les Simpsons, putain, en anglais, ouais, j'ai dû regarder deux fois.
Le prof était un geek et on parlait jeux vidéo avec lui pendant le lycée. C'était fou.
Est-ce que on se recentre un peu et on pourrait parler de tes autres projets? Parce qu'on a parlé du montage, mais par exemple, tu es dans ton décor de stream. Ça, j'imagine que c'est évidemment à côté, mais est-ce que tu streams quoi? Tu streams quand? Tu peux peut-être nous donner ta chaîne aussi, d'ailleurs?
Ma chaîne, c'est tout simplement Joytsuna. Voilà. Alors, je vais, je l'enverrai juste après parce que là, j'ai pas le lien.
Je la cherche et je la colle. mais raconte.
Est-ce que projet là-dessus. Oui, j'en ai plein.
Tu peux dévoiler, évidemment.
Bon, là, je peux dévoiler, mais il y a pas trop de secrets. Ça va, j'ai pas une communauté non plus incroyable ni des gens qui vont me voler mes idées, hein, parce que.
Si, ils sont incroyables. Non, justement, ils sont incroyables la communauté, mais.
Non mais si, mais je veux dire en termes de taille quoi, tu vois, c'est pas non plus, j'ai pas non plus des
millions, t'es pas en millions encore, voilà. Mais ça serait tardé.
Y a personne qui va leak, ou même si ça leak, tu vois, tout le monde s'en fout quoi, donc c'est bon. Non, j'ai plein de projets là-dessus, bon malheureusement là je suis un peu bloquée, de base on cherchait un appartement avec la fibre. On a dû faire l'impasse pour revenir dans la région qu'on voulait, donc voilà, c'est un peu compliqué.
Mais ça va arriver, ça va arriver.
Ça, on espère.
Le soupir.
J'ai pas trop confiance en eux, donc tu vois, c'est trois fois que je les appelle et que je l'engueule dessus.
C'est tous les mêmes, c'est tous les mêmes de toute façon.
Ouais, non, c'est terrible. Non, mais c'est très handicapant et c'est frustrant en plus parce que y a plein de jeux que j'ai envie de montrer ou de faire découvrir.
Donc tout est prêt, quoi. T'as ton décor, t'as ton matos qui est prêt.
C'est
donc...
ça. C'est ça.
T'as plus qu'à attendre la fille.
Sinon, oui, des gros projets autant dans ma vie que du coup, par extension, qui vont toucher aussi le stream. C'est l'achat d'une maison, donc je recherche aussi, soit, tu vois, sous-sol total, soit un truc qui me permet d'avoir un studio vraiment très grand, qui va me permettre, voilà, du coup, de faire aussi autant des émissions où j'invite des gens qui me plairaient beaucoup aussi. Autant montrer, continuer le jeu vidéo parce que j'adore ça. J'aimerais beaucoup faire une émission de cuisine. C'est une passion que j'ai depuis très longtemps. J'ai même failli être chef. C'était ma passion première avant le montage. Donc j'aimerais bien quand même partager ça.
Hâte de voir l'émission de cuisine qui naîtra plus tard.
Voilà, plus tard. Là, c'est dans... Vraiment, on parle de futur.
Il
n'y
en a pas
quand même un peu
tant
loin
que ça. Il y a quelques-uns, si on prend la cuisine sur le stream, ou deux, trois plus streameuses d'ailleurs, qui en font quelques streamers. Mais il y a encore, si on parle de créneau, encore un bon créneau à prendre. Sur la cuisine, ou avec des plans faits proprement, évidemment. Pas à l'arrache, avec deux, trois cams, un truc assez sympathique, mais toujours familial, hein, justement. C'est le but du stream, quoi.
Non, mais c'est ça. C'est hyper important quand même d'être... de pas faire un truc trop pro, mais il y a quand même des trucs très beaux que j'ai vus. Et j'ai pas dans l'intention de copier. J'essaye vraiment de faire un truc qui va être à ma sauce, donc c'est un truc qui va se penser.
Un truc en cuisine à ta sauce, ça correspond bien.
C'est ça. Donc voilà, mais en fait, après, ça va être des projets qui vont naître, je pense, tout doucement. Et puis, avec l'envie de la communauté, je pense que c'est hyper important, en fait, quand on fait quelque chose, on veut échanger avec des gens, c'est de les écouter, quoi. Donc il y aura aussi sûrement... des demandes et ça évoluera aussi en fonction de ça. Donc voilà, pour l'instant je laisse pas tomber, ça me fait un peu chier de laisser beaucoup de temps là depuis un mois, deux mois même où je peux pas stream. Donc c'est assez frustrant et l'envie de revenir, l'envie de retrouver les gens, les habitués, etc. Donc voilà, et puis on verra avec le temps.
Ils t'ont pas dit le VDSL, ils t'ont pas dit le VDSL existe?
Non.
Même pas.
Je suis éligible à la fibre et simplement, en fait, j'attends juste un mail d'un technicien qui doit venir. Enfin, juste, je dois prendre rendez-vous. Sauf que le mail du rendez-vous, je le reçois pas. Et que ça me rend cinglée.
Mais si, on vous l'a envoyé, je vous jure.
J'imagine qu'il n'y a qu'une touche à appuyer, tu vois, ou genre vraiment, ça demande zéro effort. Hein.
On voulait faire un YOLO show spécial qu'on n'a jamais fait, mais peut-être un jour. Sur ce genre de problèmes.
Les problématiques internet. Moi j'en ai
et
eu.
Et tous les providers internet qui sont tous pires les uns que les autres.
Ça peut faire plusieurs numéros.
Voilà, Troyer avait de quoi faire deux ou trois émissions, je crois.
Ah oui, moi tout seul. Moi j'ai eu des choses. Et moi j'ai jamais eu la fibre de ma vie. Hein. Moi j'ai jamais dit bonjour à la fibre. Donc moi c'était juste avoir internet déjà. c'était déjà assez fou.
Est-ce que t'as eu le fameux. Débrancher le câble alors que tu es au téléphone fixe avec ton opérateur.
Ah oui, non, mais ça, oui, l'abonnement.
Et du coup, qu'après tu fais allô ?
Ou alors, non, j'ai eu, la résiliation de l'abonnement téléphonique mobile pour qu'on puisse, et on va vous appeler, mais attends, si vous résiliez mon abonnement mobile, vous allez vouloir m'appeler. Comment vous faites ? Comment c'est possible, juste techniquement ? Ah oui, non, mais j'ai eu des choses, hein, mais moi en général, quand ils me demandaient toutes les. J'ai dit, il y avait une émission à faire là-dessus, mais quand ils te demandent, mais vous. Débrancher, rebrancher. Je dis, non, mais attendez, je bosse dans l'informatique. Donc, vous savez tout ça, ça marche pas. Ah, je suis bien désolé, monsieur. Moi aussi, je suis désolé. On est tous désolés. Ah, oui, non, mais ça. Il aurait fallu enregistrer. Moi, j'avais du matos d'enregistrement, enregistrer les répliques. Les répliques, parce qu'ils ont des prompteurs, hein, on dit toujours, mais c'est des gens sur prompteurs. Mais nous, on n'a pas de prompteur. J'appelle ça.
Ils ont des répliques sur un livre, je le vois vraiment comme ça, tu sais, le tuto du.
Alors attendez, page 4, le client me demande. Alors je comprends.
Il y a des réponses toutes faites.
Il y a je comprends, ils comprennent souvent. Alors quoi, je sais pas, mais ils comprennent. Je comprends, je suis désolé, je m'excuse. Et voilà.
C'est faire preuve d'empathie, ça, je pense que c'est le point numéro 1.
C'est ça. Moi, c'est là. Il faut un boulot de merde, de toute façon, j'aimerais pas le faire donc.
Tu as atteint quelques achievements que j'ai pas eu moi. Je crois qu'ils m'ont jamais dit je m'excuse.
C'est le pauvre, je vais pas dire, mais voilà, il est dépité. Il sait qu'il fait un boulot de merde. Je suis sûr qu'il le sait. Voilà, mais voilà, on leur crie dessus, mais bon, c'est très bien que les N0, on les appelle comme ça, ils peuvent rien. Ils sont 50 dans la même salle et parce que c'est pas eux qu'on veut parler.
Malheureusement, quand c'est le cinquième à qui on parle, ça fait du bien de calmer ses nerfs, quoi.
C'est ça. Alors vous êtes la coude d'eau, je m'excuse. D'avant, je vais crier. Voilà. Vous êtes très très sympathique dans la vie.
Je vais mute dès maintenant, mais vraiment.
Et par contre, vous allez recevoir un SMS, la note c'est 5. Hein. La note, c'est 5 sur 20.
Ça. Ah oui, okay. Putain, l'enquête de satisfaction.
Bah, je la reçois jamais. Ils ont de la chance.
À toi, ils te connaissent, toi.
Non, ils savent que je vais me mettre de la merde, donc en fait, ils me l'envoient pas. Hein.
Ouais, il m'a pas envoyé la dernière fois. Donc.
Okay. C'est pas, ça marche pas, mais c'est moi qu'il faut noter. Hein. J'ai été gentil, donc faut bien me noter. Ah ouais. C'est ça.
Bon, ça. Si on fait ce Yolo Show spécial un jour, on t'invite.
Allez.
Il y aura de quoi.
On racontera les déboires.
Il y aura de quoi raconter. Il y aura de quoi raconter un petit peu. Est-ce que le chat a des questions, des choses peut-être qu'on n'a pas vues, qu'on défilait sur tout. N'hésitez pas.
On pendant ce temps, moi, je peux peut-être en poser une parce qu'on est tous un peu, en tout cas sur Twitch et dans le milieu et sur Cooldown TV, un peu. On fait du montage en amateur. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est un boulot qui peut s'apprendre vraiment bien en autodidacte ou est-ce que le fait de passer par une école, c'est un plus indéniable ? Et en quoi ?
Le côté artistique, tu l'apprendras jamais à l'école ni nulle part, en fait, c'est du feeling, je pense.
C'est en bossant, ouais.
Voilà, c'est ça, c'est en bossant, c'est du feeling, c'est ce que tu as une sorte de sensibilité, est-ce que... Tu comprends la logique du montage, enfin comment tu le perçois, et des fois, il vaut mieux même pas essayer de comprendre ça, parce qu'il faut essayer d'être soi-même dans le montage et de monter des choses qui te ressemblent, même si elles sont différentes des autres, en fait, c'est important. Faut toujours garder sa patte, ça c'est hyper important. Après, le côté technique, j'aurais tendance à dire que oui, ça va s'apprendre, et il faut quand même plancher un peu sur des bouquins, parce que connaître un logiciel de montage suffit pas à régler les problèmes qui peuvent arriver. Si ton disque dur plante, si ton appareil photo, au final, le format d'image n'est pas lu par ton logiciel, tous ces trucs-là, il faut savoir les régler. Les codes d'erreur sur le logiciel, les formats qu'on peut demander, parce qu'il y a des clients qui vont demander, j'ai besoin de diffuser sur vidéoprojecteur dans une salle de 2500 personnes, voilà, faut que ça soit sur telle taille. Voilà, il y a plein de trucs.
Après, t'as
format,
beaucoup de tutos aujourd'hui. Hein, quand tu vois Internet, on a l'impression vraiment que tu peux apprendre tout de A à Z et être un professionnel juste grâce à YouTube, pour certains domaines peut-être. Mais le montage, c'est qu'il y a eu l'émergence de beaucoup de monteurs grâce à YouTube, plein de YouTubeurs qui cherchaient des monteurs et la plupart n'ont pas fait d'études. C'était, ils montaient dans leur coin, ils ont envoyé une démo à un YouTuber et pam, ils ont bossé. C'est assez... démocratiser le boulot de monteur quand même.
Ouais, bien sûr, mais en fait, je dirais qu'il y a deux mondes, en fait. C'est vraiment que ces gens-là qui vont faire ça pour eux, en fait, vont pas être amenés à gérer des problèmes liés à la télévision, à la diffusion.
Un monteur d'un YouTuber, en fait, c'est pas la même chose qu'un monteur pour des plus vieux médias.
L'école de montage peut t'amener à monter pour la télé ou à monter pour
projets.
Des formats ultra professionnels. Que tu es évidemment en autodidacte, c'est compliqué quoi. Tu vas jamais débarquer sur du montage télé ou.
C'est peut-être plus compliqué.
Ou reportage sur. Ou sport. Ou
autodidacte,
quoi.
Ça s'adresse plus à un full internet peut-être quoi.
Oui, puis il y a des problématiques qui sont difficiles à décrire sur Google quand tu cherches sur un forum ou même une explication. Il suffit qu'un client dise « la vidéo est trop lourde, mais je veux la même qualité, mais il faut me la descendre de 70% en termes de taille ». Il faut connaître par cœur ces formats, les débits d'encodage, tous ces trucs-là, en fait, c'est tout le côté technique. Et ça, en fait, bah, c'est compliqué de dire « mon client trouve que la vidéo est trop grosse, j'ai fait tel format,
t'écris tout ça.
Qu'est-ce que vous me proposez d'autre ?» Enfin, c'est...
Google.
Ou alors, tu fais une masterclass pendant une journée entière où tu apprends tous les formats parce que le mec t'a demandé ça. Alors que bon, bah, si tu l'as fait en amont et que tu connais à peu près de quoi tu parles, c'est plus facile et tu gagnes du temps. Après, bon, bah, y a tout le côté étalonnage, c'est pareil. Il faut s'y connaître en images, il faut savoir cadrer, il faut savoir recadrer quand tu es en montage. Il faut comprendre que par exemple, là, il y a trop d'espace au-dessus de la tête, il faut recadrer, il faut stabiliser.
Le son aussi un petit
là,
peu quand même.
C'est trop jaune, voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs qui passent quand même en amont par le monteur et qui sont après envoyés à l'étalonneur, au mixeur son, etc. Mais c'est quand même le gros du travail qui est fait de notre côté. Et, ben, tous ces trucs-là, je dirais que oui, ça suffit d'apprendre en autodidacte si tu fais des vidéos sur YouTube parce que il n'y a pas d'exigence de diffusion ou quoi que ce soit. Mais après, bon, pour tout ce qui est professionnel et qui va vraiment t'amener à bosser en télévision, au cinéma, etc., il faut quand même connaître tout ça. Et je pense que c'est quand même bien d'avoir
une base
formation
solide, quoi.
En poche. Le diplôme n'est pas nécessaire, hein, honnêtement.
Ça dépend vraiment où tu veux.
On te demande jamais ton diplôme.
C'est, si on te... c'est un book qu'on te demande. C'est qu'est-ce que t'as fait ? Et c'est ça. Tu sais faire quoi. Mais c'est
recommandation plutôt... book, voilà. C'est...
Alors, on a une question que je traduirai par combien de temps tu comptes travailler sur Fort Accord ? Est-ce que ça va encore durer 10 ans ?
Malheureusement, que... j'ai pas la possibilité de répondre à ça parce que moi je suis en externe justement, donc j'ai pas tout ce qui va être lié au budget des émissions allouées à l'Ociné, etc.
En fait,
moi je suis là tant que je suis là. Voilà, ouais, c'est ça.
Après, c'est tes envies pour l'instant, elles sont encore fortes pour faire le montage quoi.
Ah oui, moi je m'éclate, moi, de toute façon.
Ah, c'est ça la question, est-ce que tu t'éclates toujours autant ? Voilà, c'est ça.
Je m'éclate, j'ai envie de faire d'autres choses, ça c'est clair et net parce que. Il y a un truc qui est assez difficile dans notre métier, c'est quand tu fais toujours la même chose, c'est très répétitif. L'avantage de Fort Accord, c'est que tu changes de film, de gaffe, de blague, etc. chaque semaine, donc ça me change quand même. Même si le format reste le même, c'est pas un truc militaire. Mais oui, j'ai envie de faire d'autres choses, clairement.
Et tu disais qu'en termes de vues ou de public, il y avait un rebond que...
Ouais.
C'est pas en train de s'essouffler du tout, donc ça peut
potentiellement
durer encore 10 ans.
Bah écoute, je le souhaite. Hein. Après, non, c'est oui, il y a eu un rebond clairement avec avec l'arrivée des réseaux. Et là, elle marche très très bien, presque comme à ses débuts. Donc vraiment, c'est impressionnant en fait, parce que généralement, ce genre d'émission, ouais, au bout de 10 ans, il est temps de dire au revoir quoi. Et là, ça.
10 ans, c'est long
bien,
sur Internet. Hein. Très très long. Ouais.
On a une question en forme de blague qui demande tes revenus fiscaux. Mais moi, ça m'évoque une question hyper intéressante. C'est il y a quand même toute une équipe derrière les Fort Accord. Est-ce que le modèle économique permet facilement de, disons, de payer tout le monde et en plus de faire une petite marge qui garantit le fait que c'est intéressant de continuer de faire.
Ça, ça existe depuis 10 ans, donc c'est finalement qu'ils ne sont pas perdants depuis 10 ans, ou alors ils ont une autre façon de fonctionner.
Oui, mais tu sais, les modèles économiques, ils ont changé depuis Dailymotion, par exemple. Financièrement, c'était très intéressant, ça n'existe plus. Comment ça marche aujourd'hui, le modèle ?
Bah écoute, c'est pareil, je n'ai pas les yeux sur les comptes de Webedia, donc je ne sais pas.
Ils arrivent à te payer, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Je sais pas du tout en fait combien l'émission rapporte et honnêtement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas vraiment en fait de savoir ce que ça peut leur apporter. Moi, je suis payée en fait sans devoir brader mon travail, donc je suis payée à la hauteur de ce que je fais. Donc ça me convient très bien, on s'entend très bien. Donc
je pense que de toute façon, ça doit pas être quantifiable tout à fait comme ça parce que ça leur amène du trafic.
Et même
pour Webedia, le trafic, ça a une valeur énorme.
Webedia a beaucoup de... C'est comme des chaînes. Quand il y a un resto qui fonctionne moins, c'est un autre resto qui fonctionne beaucoup plus, qui ramène... Il le disait quand j'écoutais des interviews via le stream, que le stream est déficitaire très largement, en tout cas l'était, mais il compte sur d'autres choses. Mais entre ce que coûte le stream et ce que rapporte le stream à Webedia, ils perdent plus de l'argent qu'ils n'en gagnent, mais c'est un pari sur l'avenir. Parce que les nouvelles sponsorisations, les nouvelles pubs vont y aller, donc c'est toujours des paris sur l'avenir, ouais.
Oui, bien sûr. Et puis ça fait émerger. En plus, il suffit qu'ils invitent des streamers qui fonctionnent bien dans le moment, dans l'émission, ça leur donne de la visibilité. Voilà. Ouais. Enfin, c'est de toute façon toute une question de pognon. Donc j'imagine que s'il faudra encore continuer, c'est que ça fonctionne.
C'est ça.
Voilà,
donc tant mieux. Donc tant mieux. Hein. Alors évidemment, tout.
On va pas se mentir, hein, c'est vrai. Hein, je veux dire, s'ils vont pas me payer, je pense pour mes beaux yeux, quoi. Donc si l'émission fonctionne, voilà, c'est qu'on peut continuer, donc c'est cool.
Espérons voilà. Parce que ça serait bizarre.
J'ai pas les yeux dessus, donc.
Si ça s'arrêtait, ce serait bizarre. Moi, je. Ouais. Ça fait 10 ans pile, j'avais du coup 18 ans quand et du coup j'ai l'impression quand ça fait 10 ans, t'as l'impression d'être né avec limite tellement ça fait d'années ou à regarder. Et moi, je me suis mis, je sais pas si toi c'est pareil en le montant, mais moi il y a des films, des fois, soit je regarde particulièrement les films que j'ai déjà vus pour me dire ah ouais, et du coup, des fois après je re-regarde le film et je ziote les endroits, ou des fois des films que j'ai pas vus, je vois, ça me donne envie de les regarder pour me dire. Et du coup, je me mets à chercher. C'est ça un petit peu quand on aime l'audiovisuel, ou on aime les films, ou qu'on travaille dedans, on se met à regarder les films. Moi, avec ma femme, des fois, je lui dis tiens, tu vois, là il y a un fond vert. Ça lui casse les couilles. Et je suis chiant maintenant quand je regarde un film avec quelqu'un. Tiens, regarde là, en fait, tu vois, dans Harry Potter, il fait ça, mais t'as vu, là, il y a le drap qui te dépasse. Je sais pas. Des fois, on apprécie moins les chiffres.
Ça gâche, ouais. Ça me gâche pas. J'aurais plus tendance à être contente d'en trouver un, en fait.
Mais j'ai un autre regard,
par exemple,
ouais.
La dernière fois, j'ai regardé Lupin. J'en ai trouvé deux dans un épisode. Et je fais, putain, faut que... Bah, du coup, moi, forcément, je me dis... faut que je le note, parce que, du coup, on va sûrement le faire. Mais du coup, des fois, c'est marrant, parce que même des films qu'on n'a pas fait, mais qu'on ne fera sûrement jamais...
Tu les vois.
J'en vois aussi, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, je trouve.
Est-ce que toi aussi, ça t'énerve de pas les voir... Enfin, il y a un principe que vous faites, des fois, c'est de passer la scène... Ouais. De pas expliquer ce qu'il y a à voir dedans, et donc t'as vu la scène et tu te dis mais tout va bien dans cette scène, elle est parfaite cette scène, et après vous décomposez tout ce qui va pas dans cette scène.
Ouais, c'est frustrant ça, franchement. Des fois surtout t'as des scènes des fois hyper longues, en plus on les montre en entier, puis après bam 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 bam, il y a tout ça. Putain, mais c'est
comment
je suis aveugle ou c'est quoi en fait.
Ah ouais, ça c'est fou ça.
En fait, oui, c'est un peu le principe de la magie aussi. Le cinéma, c'est que ça va être souvent des détails qui sont hors champ ou derrière, ou et notre attention est pas du tout sur l'arrière-plan ou sur ce qui
c'est
va
ça,
se passer.
On cache parce que tu regardes ailleurs, mec, quoi.
C'est ça, en fait. Et du coup, bah, c'est peut-être comme expliquer un tour, en fait, ce qu'on fait. Mais moi, je trouve que ça gâche pas quand même la magie. Il y en a beaucoup, je sais, qui trouvent que ça leur gâche un peu le plaisir, mais
ça dépend comment.
Mais moi, j'aime bien savoir comment c'est fait.
C'est ça, ouais. Je pense que ça dépend un peu du profil.
Les trucs que j'aime pas trop, c'est tout ce qui te sort vraiment, c'est-à-dire les perchman, ou vraiment les trucs techniques. Savoir que c'est là dans un film,
Même des fois, quand je sais, je le regarde, mais ça dépend le film. Si tu l'as vu 20 fois et que tu t'en rends compte au bout de la 21e, ou alors si tu le découvres la première visionnage du film, c'est pas exactement la même chose. Parce que tu sais, ça devient culte.
La pire gaffe, c'est celle qui m'a vraiment. Ça m'a vraiment cassé la magie, parce que je suis en plus hyper fan. C'était sur Malcolm. C'était de voir le haut du studio dans la maison. Et du coup, ça me sortait tellement, j'étais genre, mais non, c'est pas possible,
c'est une vraie maison,
juste la maison de Malcolm, quoi.
Et Malcolm, parce que...
Dis, putain, tout ça a été détruit,
sur
en fait.
Sur la diffusion, le format de diffusion, c'était 4 tiers, enfin, ils ont rendu en plus pour les écrans 16/9, du coup, ils avaient déjà enregistré tout, ils n'ont pas pensé. Mais c'est drôle, maintenant. Du coup,
c'est terrible.
Ça fait gag. Mais du coup, on demande ton épisode préféré. Alors, peut-être, je sais pas, c'est le préféré que t'as aimé monter ou celui que tu te souviendras toujours.
Ouais, je le connais par cœur parce que je l'adore.
Ouais, ton préféré.
mon préféré, ça a été en spectatrice.
C'est peut-être pas le même.
Ouais, c'est le même. Hein. C'est le même. Ah ouais, non, si, c'est le même, forcément. Je suis trop fan de ce mec-là. C'est on avait le doubleur de Deadpool, donc de Ryan Reynolds, qui venait dans l'émission. Donc, on avait fait Deadpool. Du coup, j'avais pu l'écrire et du coup, recevoir sa voix. C'était fou de recevoir la voix d'un professionnel comme ça, d'une traite. Il me fait tout sur le ton, mais le ton de Deadpool, comme je l'avais écrit, ça m'avait pensé. Et j'adore cette émission. J'adore la revoir. J'adore ce mec. C'est vraiment... je crois que c'est une qui a le plus marché, d'ailleurs, sur YouTube. C'était vraiment un plaisir.
Donc, comme notre ami Troyer, tu es une fan des doubleurs VF.
J'adore, ouais.
Hello, il préfère la VO, il est fan de la VO.
Ah ouais, de très très loin.
Ah, mais j'adore la VO, attention. Par contre, je suis pro VO, hein, vraiment. Mais il y a certains films ou certaines séries, ça va être en VF parce que je suis fan de la voix, quoi. Mais tu vois, les dessins animés, par exemple, grandir avec la voix de Richard Darbois, ça m'a fait quelque chose, en fait, quand il est parti. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment... Là, c'est une icône, en fait, de mon enfance qui s'est éteinte, quoi. Et il y a des trucs comme ça où j'ai plaisir à regarder en VF. Les Die Hard, par exemple, voix quand même de Bruce Willis, c'est iconique. Du coup, c'est des petits trucs comme ça, mais sinon, pro VO, clairement, Friends, etc., c'est de la VO tout le temps. Toutes les séries, je regarde en VO, voilà. Donc, ça dépend. Moi, je suis tempérée. Chacun fait ce qu'il veut.
Tu veux ne pas créer de friction entre les viewers. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait.
Je suis la Suisse. Je me positionne.
Tu vas pas. Ne dis pas. On se fait la Suisse.
La Suisse des montres.
Ou la Suisse de l'euro où les gens sont pas très contents à cause du foot il y a pas longtemps. Donc en fait, attention, tu vas te mettre à dos certaines personnes. Et petite question technique, Dizzy, que penses-tu de ton premier montage par rapport. Enfin, montage où tu as été payé. Si on prend le premier fois et le dernier, est-ce que. quand tu regardes des premiers montages où tu as été payé, évidemment, où vraiment tu t'es dit quelqu'un a voulu ma valeur professionnelle, et ceux de maintenant, tu te dis oh, les premiers, oh, c'était de la merde, ou est-ce que tu dis toujours quand tu regardes les premiers, non, j'étais quand même très quali, j'étais non, super forte à l'époque, non, vraiment tu te critiques.
Non, c'était à chier, c'est vraiment.
Ah, ok.
C'était terrible. non, c'était. Bah non, tu sais, c'est. T'acquiers un peu, tu vois, de l'expérience aussi avec le temps, ce que les gens y veulent, etc. Et puis, petit à petit, tu t'habitues à aussi te documenter, tu vois, sur les visuels qui marchent, etc. Non, franchement, au début, c'était, tu sais, du montage d'école un peu. C'était. En plus, c'était dans les premiers que j'ai fait, c'était pour une boîte américaine. C'était une nana de Los Angeles, donc improbable, qui m'avait contacté et le monteur avait fait un truc. Un trailer pour une boîte qui vendait des vêtements. Maintenant, ça s'est vachement démocratisé. Tu sais, les vêtements de luxe, tu les reçois en location tous les mois chez toi. Ouais. Tu les essayes, tu peux les porter et après, tu les renvoies. Enfin bref, voilà, c'était un truc comme
c'est,
ça.
C'est une LOA, mais version vêtements.
Et le trailer qu'elle me montre, c'était un truc Auchan. Tu sais, limite avec les pastilles étoiles en mode paint rouge. Genre, ouais, incroyable et tout.
Les magazines.
Ouais, j'étais genre, après, je regarde le truc.
En mode second degré, ça peut être pas mal, hein.
Ah, en second degré, oui, mais là, c'était pour un truc de luxe, ils auraient pas apprécié.
Ah, mais à l'époque.
Et ah, mais c'était terrible. C'était même à l'époque, c'était terrible.
Même à l'époque, c'était moche.
Et elle me dit, oh, ouais. Et elle me dit, est-ce que tu peux faire mieux? Et je lui dis, je peux pas faire pire, hein, c'est déjà ça. Et du coup, elle avait pas un budget très élevé. Au final, bon, ça s'est bien passé, mais on n'a pas donné suite ensemble. Du coup, j'avais accepté de bosser pour pas grand-chose parce que c'était le seul budget qui restait alloué au montage.
Un kebab.
J'avais fait un truc complètement différent avec des shots de Los Angeles et tout. Mais bon, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais fait différemment.
Parce que le truc cheap de base, c'était un professionnel qui avait fait ça ?
Ouais.
Ah oui, c'était un mec qui était
son
métier.
Aux États-Unis qui avait fait un truc ignoble et du coup, bah, elle avait besoin de quelqu'un pour rattraper le coup, quoi.
Mais elle se rendait bien compte que c'était pourri, sinon elle serait pas venue. Ouais.
Ah oui.
Et le mec qui l'a fait, il s'en est pas rendu compte, lui, alors que c'est son métier.
Bah, c'est ça, en fait.
C'est bien le problème. Ok.
Ah ouais, non, mais. vraiment, là, hyper triste. Enfin, je veux dire, si ce gars-là a encore du travail, je sais pas.
Ou alors il s'est amélioré. Ou alors il s'est amélioré depuis, ouais. on l'espère, hein, mais. Moi,
et les pastilles comme ça, waouh!
J'ai ma femme qui a la même chose, elle bosse dans le graphisme et dans le visuel. Elle, pareil, elle fait des choses et elle voit d'autres. Et des fois, tu vois le client qui préfère un truc dégueulasse, immonde, vraiment fait sur Paint, à un truc super classe, sobre, bien amené. Tu te dis vraiment, les gens qui ne s'y connaissent rien, ils ont un avis de merde. Ils sont floutés.
Des fois, c'est frustrant. Ouais,
ou alors, trop de trucs à l'écran, c'est mais il y a toutes les infos! Mais non, justement, mettons l'essentiel. Non, faut tout. Faut les 4 adresses mail, faut les 3 téléphones, faut
et
les...
Ça, excusez-moi, mais c'est vrai pour tous les créatifs. Moi, je travaille dans l'architecture, je peux te dire qu'on se tape la tête contre les murs, des fois. Tu
passes bien pour
des semaines et des semaines à bosser sur un truc hyper chiadé, hyper pensé, et le client, il dit non, mais la version 1, là, d'il y a 2 mois, c'est bien, en fait. Hein. On va garder ça.
Oh là là. Ah. Ouais, j'ai eu des clients comme ça qui m'ont envoyé des pavés. Ouais, j'en ai pas honte, hein, mais c'est drôle quand même pour l'anecdote. J'ai fait un trailer sur les opossums en anglais.
C'est drôle ça. C'est visible quelque voilà, part ça.
Ouais, je pense.
Gros CV, du coup.
C'est un gros CV ça, mais je pense que c'est à mettre en haut parce que je vois dans ton CV que j'ai mis tout à l'heure, il n'y a pas ça en haut. Ça devrait être en avant forage.
J'ai fait un trailer avec des opossums.
Enfin, moi, ça peut un petit peu intéresser des personnes.
Du coup, bah, ces clients-là, en plus, étaient des cinglés. Genre, j'avais fait... alors, ça s'appelait Possum Wars, OK. Ils utilisaient des mots, des titres de films connus pour essayer de faire des documentaires animaliers qui envoyaient du lourd, quoi. Mais c'était... Ah non, il y avait un truc sur les taupes, je sais pas quoi. Ils avaient repris... 6 Feet Under, il l'avait appelé autrement. Du coup, Possum Wars, voilà. Et du coup, les clients m'envoyaient des pavés de modifs, mais c'était des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Mais je vais jamais m'en sortir de ce trailer. Enfin, moi, les opossums, je commence à en avoir le cul. C'est bon, quoi. Du coup, ça a pris une semaine et demie, je pense, pour un trailer d'une minute trente, parce que les mecs lâchaient rien, quoi. C'était...
Je cherche un peu savoir sur Internet.
Ah, la version d'avant, elle était bien quand même.
Je vois des choses, mais je sais pas si c'est ça. Mais je retrouverai.
Il est sur mon site en tout cas.
Ah, ouais, il est. Ah, je cherche. Ouais, je okay. Google et mon ami.
Bah, il faudra qu'on le regarde à la fin du show.
Oh là là, mais pas ça. Mais limite, tu t'en voulais plus chez toi. Attends, ah, j'étais offert un autre. Non. Garde-le. Oh, non, mais... Brûle-le. Enfin...
Ah ouais. En plus, c'était au moment où j'étais en BTS, donc j'étais dans une société qui, du coup, c'était leur client. Et bah, je pouvais pas non plus faire trop de vagues. Et en plus, j'étais jeune, donc je connaissais pas trop. J'avais l'habitude de parler aux clients, mais bon, là, c'était en anglais. C'était un peu. J'étais pas encore hyper bilingue. Et ouais, non, c'était laborieux. Hein. Et ils voyaient les mails, je me retournais vers mon boss et je lui regardais, genre. Je n'en peux plus, je vais les tuer. Tu veux pas faire le reste, quoi.
En fait, c'est ça, et les clients qui veulent tout faire eux-mêmes, finalement, tu leur dis, mais démerdez-vous, faites-le.
Ouais, c'est ça. Bah ouais, au final, chaque détail, il y a un commentaire dessus. C'est,
Et ils s'y connaissent mieux. Ils s'y connaissent mieux que toi, ça, c'est évident aussi.
Je crois que je l'ai trouvé. Hein.
Ah, mais moi aussi, c'est bon. Ouais, c'est ça, moi je pense qu'on peut se le mater. Enfin, vous savez quoi?
Ah,
le...
mais c'est cadeau, hein.
Non, mais attends, tu nous le commentes évidemment.
Ah oui, attends,
on le diffuse, et ouais, bien sûr.
Ah, attends, il y aura un petit décalage quand tu regardes le live. Mais c'est pas grave.
Bon. Oui,
allez, je le mets. C'est pas sous droit d'auteur. Les droits d'auteur, ça se passe comment? Alors, désolé d'avance pour la VOD, pour les podcasts audio. Vous irez sur la VOD YouTube. Vous faites plaisir. Désolé pour vous. Parce que du coup, c'est pas très podcast audio. Mais c'est pas grave. YouTube.
Parce qu'il y a une musique.
Ah bon, bah on coupe l'audio. Et du coup, pendant ce temps-là, on va juste faire des cris d'opossum pour combler. Ce vide.
Ah, ça va être tellement dommage, mais je sais pas si la musique est de droit en vrai. Mais...
Donc pour faire ce trailer.
Parce que le montage est fait sur la musique, attention. Hein.
T'as reçu
ça fait boum, boum, boum.
Ah oui. T'as reçu beaucoup d'images de possum.
Ah oui, ah, bah, c'était tout le film en fait, c'est un documentaire entier, donc c'est.
Combien de gigas d'opossum?
Ouais, c'est 1h30, je crois, à peu près.
50 gigas d'images, que des opossums.
Ah ouais, non, c'était long. Hein. Non, bah, on devait.
Mais en plus, ils me font peur, ces trucs. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Dans la nuit, je sais pas, tu vois, t'as ça, tu te réveilles, t'as ça sur ton épaule, tu sais pas, moi j'aurais un mouvement.
Non, mais attends, maintenant je suis hyper calée. Je crois que c'est en Australie, à Melbourne. Non, mais ils sont tarés, les opossums là-bas. Hein. Regarde, ils sont dans les maisons et tout. Ils s'installent dans ton toit.
Je sais pas s'il a marché, ce docu.
Ils bouffent tes bananes.
Non, mais c'est ça.
Ah ouais, non, mais c'est vraiment. C'est l'île aux serpents de je sais plus quelle île, il y a que des serpents, c'est la même chose, mais des opossums.
Ouais, non, mais je pense que c'était important que je fasse ça, tu vois, parce qu'il fallait passer le message à la population quand même. C'est important la prévention pour faire les
opossums.
Pourquoi
ce documentaire existe? Et j'imagine les mecs qui se sont dit, mais il faut faire ça, tu vois. Et quand tu le vois, t'as l'impression vraiment, mais avec Wars, tu dis, tu vas voir le dernier Avengers.
Oui, parce qu'en fait, il y avait des défenseurs des opossums, et il y avait ceux qui étaient contre.
Contre les opossums. Contre les opossums au pouvoir.
Du coup, il y avait une sorte d'opposition, tu vois. C'était vraiment côté obscur, les bâtards qui veulent tuer les opossums. Et puis les Jedi, c'est ceux qui les protègent et tout. C'est vraiment. Les mecs sont partis dans un trip. Ah non, bah c'était.
Oh là là.
Ouais, je sais pas. Pourquoi pas. Hein.
Bon, en tout cas, ça t'a fait une belle expérience.
Écoute, voilà.
Bon, plus jamais, je suppose.
J'ai toujours un truc à raconter.
Mais plus jamais, mais c'est vrai que dédié en plus à un seul animal, tu peux même pas varier, t'es vraiment sur le même, quoi. C'est
ça. Non, mais c'est... Du coup, je reviens sur ce que tu disais, qu'il y a des gens qui vont tarifer des trucs très peu chers, mais y a quand même une grosse concurrence dans le métier à cause de ça, parce que, bah, justement... Ça me permet aussi de faire le lien avec ce que vous disiez sur est-ce qu'on peut apprendre tout seul. C'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant sur les réseaux sociaux, etc., qui vont nous demander un montage, par exemple, pour 50 balles. Mais moi, c'est pas ce que je tarife, en fait.
Ouais,
ils vont me dire, ouais, mais il y a un mec qui me le fait.
Ma compile Call of Duty, là, mes trickshots, là, tu me les fais pour 50 balles, ouais, j'ai 12 ans.
Non, mais c'est ça, tu vois. Ouais. C'est ça, et en fait, on n'est pas. En fait, on vit pas de passion parce que ça se mange pas, en fait, tu vois. C'est cool d'avoir.
Comment ça? Tu ne te nourris pas de passion? Le fruit, ça, tu le connais pas? Ah, c'est ça, ils vont se couper un peu. Hein.
Non, mais en fait, vraiment, c'est aberrant, et puis, c'est vrai que. Comme je disais, pour YouTube, ça, c'est assez limité quand même. T'as pas besoin de connaître énormément de choses dans le montage tant que t'es à l'aise avec ton logiciel et que tu sais monter. Et du coup, bah, ça concurrence vachement le métier actuellement.
C'est ça, quoi.
Et, c'est
après,
pour
t'as
ça
des
obligé de baisser nos tarifs aussi, quoi.
Pour malgré que ceux qui font la concurrence, c'est des gens qui n'ont pas une qualité de montage très folle, mais qui suffit à ce monde d'internet, de jeunesse d'internet surtout. Mais pas que, parce que je pense qu'il y a des très grosses boîtes qui ont du pognon et qui tirent vers le bas parce qu'ils savent que il y a des petits.
Ça dépend après des boîtes. Après on tombe sur les bons ou les mauvais. Par exemple, j'ai fait tous les overlays, tu vois, d'une chaîne. C'est une boîte de post-prod. Je leur ai fait tous les overlays. Voilà, ils m'ont rémunéré comme une graphiste normale.
Et il y a encore des gens qui payent. C'est bien ça. Force à eux.
C'est ça.
Force à eux. Et dernière petite question.
Tu veux dire comme le tatouage, hein, on a ce pourquoi on paye aussi, quoi.
C'est ça. Et si on n'a pas cher, si c'est un grand tatouage, il ne faut pas s'attendre à avoir de la qualité. Tu as à moitié répondu, c'est Ziz qui demandait est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as refusées au-delà du prix que la personne te demandait quelque chose pour 50 balles, bah, tu dis va voir ailleurs si j'y suis. Est-ce qu'il y a des choses où le projet t'a fait non et t'as dit non parce que ça te semblait trop chelou ou autre? Pas du tout.
Et aller au-delà des opossums.
C'est ça.
Sur l'Australie, par contre. Parce que oui, effectivement, j'ai un projet en fait où j'ai participé au début. C'était un documentaire d'un mec qui était parti un an et demi en Australie. Et du coup, qui a vraiment filmé tous les coins, qui allait même à la rencontre des aborigènes, etc. Et du coup, y avait vraiment tout un panel de personnes différentes, de paysages différents. Il était très beau, son documentaire. Sauf que c'était quelqu'un qui avait vraiment besoin, pas d'un monteur, je pense, mais de quelqu'un pour l'aider à s'organiser. Parce qu'un an et demi de rush, c'est compliqué à faire tenir en une heure et demie et surtout à garder le propos qu'on veut garder dès le début.
Limite, il fallait une série, quoi.
Ouais, c'est ça. Et j'ai essayé d'aider un petit peu, d'organiser ses plans, etc. Mais ça ne matchait pas, on n'arrivait pas à travailler ensemble. Et du coup, je lui ai dit stop, je quitte le projet. Donc voilà.
Ça, c'est un très bon sujet, je trouve. C'est qu'en fait, le montage ne fait pas tout, évidemment. Et que le dérush et le fait de choisir... En fait, écrire l'histoire, le storytelling lui-même, il dirige beaucoup de montage, c'est pas l'inverse.
Ouais. C'est hyper important.
Et j'imagine que souvent, les gens, ils viennent te voir, ils zappent une étape, quoi. Ils viennent te voir en disant, tiens, il me faudrait un montage, alors qu'en fait...
Oui, c'est ça.
Ils n'ont pas la moindre idée de quelle est la direction du truc, quoi.
Ouais, c'est compliqué, des fois, de trouver un peu ce que les gens veulent. Maintenant, par extension, on est forcément des rushers, en fait. Enfin, on est obligé de s'occuper des rushs quand on est monteur. Par extension, c'est obligatoire parce qu'on va peut-être des fois aussi trouver une pépite que le client a pas gardée et qui nous va nous permettre de faire parler.
Et t'es là
un
pour conseiller
et
aussi, quoi.
Pas le faire parler. Voilà,
t'es là pour
ça.
Conseiller
du
la
coup,
manière.
Moi, souvent, je demande tous les fichiers et après, j'essaie de voir un peu ce que le client veut et de cerner sa personnalité, son projet, comment il veut le montrer, quel ton il veut employer. Mais là, c'était trop compliqué parce qu'en fait, il avait aussi un besoin de contrôle qui, moi, m'étouffait en fait dans mon travail. Je ne pouvais pas avancer parce qu'il voulait toujours voir dès que je bougeais quelque chose sur sa timeline, dans le montage, etc. Il voulait tout de suite voir ce que j'avais fait, que je peux comprendre parce que c'est son bébé, mais il faut faire confiance aussi, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de...
La liberté d'un créatif, elle n'a pas de prix.
De donner, quoi. C'est ça.
Et il faut lui laisser un petit peu d'air.
Ouais, c'est ça, faut faire confiance parce qu'en général, quand on fait appel à un professionnel, c'est justement pour aussi avoir des conseils artistiques, etc. Donc,
et avoir du temps et de le mettre sur autre chose, quoi. Parce que sinon, autant le faire soi-même, mais ça, c'est créatif, ça. C'est le fléau un petit peu de tout créatif. C'est le client trop pressant. Oui. Donc bon, si vous voulez être client, les amis, soyez pas chiants. C'est un peu le maître mot, payez et ne soyez pas chiants et tout ira bien. Globalement, tout devrait bien se passer. Si, on le dit, s'il y a des gens qui veulent te commander des trucs, si des clients sont dans l'assemblée, que ce soit maintenant ou futurement via les podcasts, tu préfères qu'on te contacte comment? Via en MP Twitter Qu'est-ce que tu préfères?
Le plus simple, c'est Twitter, honnêtement. Après, ça peut être Twitter, Instagram, ça peut être...
Où ils veulent, mais Twitter, c'est peut-être ton petit préf.
Ouais, voilà.
Bah écoute, on le donne. Donc, si vous avez, vous connaissez des gens, des projets audiovisuels, hein, de toute façon, et j'en propose. Et après, c'est à toi de dire oui, non.
Bien sûr, mais n'hésitez pas.
Voilà, n'hésitez pas.
Je suis sympa.
Pour financer ce décor, qui est très beau, on le redit. Hein, vous le verrez futurement en live, bientôt. On croise les doigts.
Depuis le début du podcast, j'ai peur que ça brûle derrière toi.
Et au cas où, tu me rassures.
Ah, bah, tout va bien.
Des bougies LED. Mais ça aurait donc pu t'inquiète
faire...
pas.
Ah ouais, mais ça aurait pu faire, tu vois, en direct, la flambée, non.
Oh mon dieu.
En tout cas, t'as le plus beau décor de nous trois, t'as le mur blanc, t'as les étagères et il y a le super décor, c'est bien, tu illumines cette scène.
Qui part en live, c'est le cas de le dire.
En tout cas, on remercie tout le chat, on te remercie d'avoir pris le temps, il est déjà l'heure de se dire au revoir. On espère que ton internet reviendra très bien, enfin en très bonne qualité pour que tes lives puissent revenir et que toutes tes émissions arrivent. Parce que j'ai hâte de voir les émissions de cuisine, moi. Pas tout de suite,
ah
mais
oui.
J'ai hâte.
Ah oui, pas tout de suite. Hein.
Mais j'ai hâte quand même. J'ai hâte quand même de voir un petit peu la pâte et la manière de faire. Alors, en tout cas, les amis, vous pourrez écouter cette émission en podcast donc sur YouTube, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast. Enfin, vous connaissez un petit peu tout ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.